Et bonjour à toutes, et bonjour à tous, bienvenue dans Magnétophonie. Il est l'admis et c'est l'heure d'écouter des choses un peu plus différentes, des histoires qui se racontent. Et aujourd'hui, on va raconter beaucoup d'histoires, puisque aujourd'hui, je reçois Joachim et Oran, pardon. Bonjour.
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 Ça va?
Oui, ça va.
Ça va très
Bon.
bien, oui.
Vous faites partie des licences de art du spectacle
Oui.
et vous avez réalisé avec Julie Valero une série de fictions, histoires à entendre, qu'on va écouter dans la deuxième partie d'émission. Moi, je commence comme d'habitude en fait avec un module des discrets qui justement cette semaine va interroger nos anciens pour savoir qu'est-ce que ça veut dire que la réalité dépasse la fiction.
Les discrets présentent Curieuse expression.
Dépasse la fiction.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les films, maintenant, c'est des horreurs. C'est que bah, c'est toujours de la bagarre, c'est toujours des tueries, des massacres. Oh non, moi, je ne regarde pas les films. La télé, elle est pas, il n'y a pas grand-chose de bien maintenant. C'est des films. Les anciens films étaient bien, mais maintenant, c'est. Toujours de la bagarre, hein?
Ça va. Ah oui, je suis avec elle pour les films. Parce que avant, on en avait des très beaux, on
Il y
avait
avait des
des
beaux
bons
films.
artistes, on avait des bons artistes. Maintenant, aller chercher les artistes qu'il y a, c'est toujours l'Américain qui prime.
Il y avait
Oui,
Pierre Prenet.
il y avait des beaux films.
Pierre Prenet, c'était quelqu'un?
Il y avait de
Avec
très beaux
Yvan le
films.
Printemps. On a vu des films comme ça, mais mon père est
Maintenant,
venu
vous
pour me
voyez que les
dessiner.
pistolets, les films à tuer, alors. Mais
Oh, bon.
c'était plus raisonnable, pas vraisemblable comme c'est maintenant.
Oh, bon, c'est-à-dire, on ne les reçoit pas pareil non plus. Hein. On ne les reçoit pas à 18-20 ans comme maintenant on les voit. Hein. Évidemment, maintenant, on dit, oh, bon, c'était pas comme ça. Là. Dans notre temps, mais forcément, on ne voit pas avec les mêmes yeux. Enfin, comme vous dites, la réalité, moi je croyais me marier enfin, avec le petit jeune homme que je fréquentais. Finalement, il s'est marié avec une autre. Et bon, bah, après, je me suis mariée, mais je n'ai pas été tellement heureuse avec mon mari. Autrement dit, la réalité dépasse la fiction, oui.
Ou l'inverse, parfois on a des fictions qui dépassent quand même pas mal la réalité dans Magnétophonie, ça dépend un peu des fois. Donc comme je le disais, cette semaine, on va écouter pas mal de créations étudiantes, on va en écouter en fait deux séries. On va commencer par une série de portraits radio, sur le thème du refuge, un thème que vous allez voir interprété très largement. C'est une réalisation des deuxièmes années de l'IUT Métiers du multimédia et de l'Internet, dans le cadre d'un cours encadré par Christiane Dampne. On en a choisi trois dans la série, parce qu'ils nous ont pas mal plu. Et on va commencer justement par se mettre dans un refuge au sens le plus alpin du terme. C'est un refuge loin de la société, un portrait de Léon Leplomb qui nous emmène au refuge du Promontoire dans le massif des Écrins. On écoute Freddy Maignan, gardien, ancien gardien de ce refuge à plus de 3 000 mètres d'altitude. Bonne écoute sur les 90.8 de Campus Grenoble.
Je suis Freddy Maignan, j'habite au-dessus de Grenoble, en montagne, à 1100 mètres, mais pendant 10 ans, j'ai été gardien de refuge à 3100 mètres, la moitié de l'année. Voilà, et donc ça a été l'essentiel de mon activité ces 10 dernières années. C'est plutôt mes grands frères, hein, qui m'ont initié à l'alpinisme dès que j'étais collégien, quoi. Du promontoire, j'y ai vécu. C'est extrêmement, c'est profond ce qu'on vit là-haut, quoi. Je suis pas là-haut un peu, j'étais complètement là-haut. Et là-haut, on vit les choses, on est à la fois coupé et pas coupé. C'est-à-dire qu'on est coupé matériellement, parce qu'on est loin, s'il fait mauvais temps, on est à plusieurs heures de la vallée, on est à, voilà, donc on est à la fois loin, coupé, et en même temps pas tant coupé, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent nous voir, quoi. Donc à la limite, et que ceux qui viennent nous voir, ils ne font pas que passer. En général, on rentre en contact, on discute. C'est riche humainement dans un lieu isolé. Et en fin de compte, isolé de la vie et de la société en bas, mais pas du tout isolé de la planète et de la Terre, quoi. Et le côté le plus impressionnant pour moi, là-haut, c'était qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'on vit véritablement au milieu des éléments. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que dans notre tête, le jour, la nuit, tout le temps, on a un œil, une oreille, on est toujours les sens en éveil sur ce qui se passe, la météo, la montagne, le vent, le soleil, les cailloux qui roulent éventuellement, tous les petits signes qui font que, comme on est tout seul immergé dans ce milieu-là, tout seul au sens où on est celui qui observe le plus dans ces territoires-là, et même quand les gens passent nous voir, ils nous questionnent beaucoup. Donc on est en permanence dans ce rôle-là d'immersion totale au milieu des éléments. Donc on n'est plus dans la vie d'en bas, quoi. Même si on l'aperçoit de loin à travers les gens qui montent. Mais voilà, notre priorité, tout notre corps, tous nos êtres, tous nos sens sont branchés là-dessus. Et ça, c'est des choses que j'ai du mal à revivre quand je suis en bas, parce qu'en bas, on a toujours un lien très direct, très matériel avec la société, avec tout ce qui peut s'y passer, quoi. Il faut se rendre compte que jamais dans l'histoire, les habitants, on va dire français, européens, pour parler de ce que je connais, jamais dans l'histoire, les citoyens européens n'ont été aussi coupés de la nature. Jamais. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a des générations entières qui n'ont aucun contact, même indirect, avec la nature. C'est un autre intérêt, moi je ne rejette pas, hein, c'est deux choses différentes. Mais c'est tout simplement pour dire que là-haut, on vit complètement dans un autre monde. Et si, pour l'illustrer de façon très, très, très parlante, si je puis dire, c'est vrai que ça me l'a fait très très souvent, les retours en septembre, quand après plusieurs mois passés là-haut, à la fois au milieu des éléments, parfois un peu violents, parfois forts, souvent magnifiques, en même temps au milieu de l'engagement d'humains qui font des choses qui ne sont pas dans leur vie habituelle, quoi, vraiment qui sortent un peu de ce qu'ils font au quotidien, donc ils vivent des choses très fortes. Et ben quand je descends en bas, souvent en septembre, octobre, c'est vrai que parfois ça a été jusqu'à un peu me mettre mal, quoi, parce que je trouve que quand je rentre, par exemple, la première année, quand je rentre dans un grand magasin, en arrivant de là-haut, je me dis, mais qu'est-ce que c'est futile, qu'est-ce que c'est superficiel, qu'est-ce que c'est... voilà, enfin, dans quel monde je suis, quoi. Le contraste entre des vies intenses, fortes, passionnées, riches, là-haut, et une société, excusez-moi, mais bassement de consommation de biens matériels, dont parfois, qui ne servent pas à grand-chose, quoi. Donc il y a un contraste de vie qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir.
C'était un refuge loin de la société, un portrait de Léo Leplon. On continue avec les portraits réalisés par les UTMMI cette année. On va en écouter un autre, toujours dans le thème du refuge, qui s'intitule « Mange ta main », puisqu'il nous parle d'anorexie. C'est un portrait de Clément Reguillon et Gary Kerlioz.
C'est une maladie qui effraie et qui reste aujourd'hui encore assez mystérieuse. L'anorexie, qui touche majoritairement les femmes, concerne aujourd'hui en France entre 30 et 40 000 personnes. Alors elle se déclenche souvent à l'adolescence, mais elle se poursuit parfois à l'âge adulte, et ce sont précisément des patients...
Ça a commencé quand j'étais en quatrième. Mes parents étaient en train de divorcer. Et je me suis retrouvée vraiment toute seule à ce moment-là.
Donc il a fallu que je perde 11 kilos en 2 mois.
Comment ?
Je mangeais 3 pommes par jour au lieu des 3 repas.
J'avais ma meilleure amie qui avait un peu des problèmes de nourriture. J'ai commencé à la suivre dans ce délire-là. « je mentais à ma famille et à mes amis pour ne pas manger. Je faisais semblant de manger devant ma famille. Je me mentais à moi-même et je mentais du coup aux autres. Ils ne voyaient pas que je ne me nourrissais pas. Ça a commencé à devenir un problème aussi quand j'ai commencé à avoir des moments d'absence où je me trompais souvent de bus, où j'allais chez ma mère au lieu d'aller chez mon père et inversement, je me trompais tout le temps. On ressent déjà de la puissance, on se sent très, très puissant de réussir à ne pas manger, de réussir à contrôler tout ce qu'on mange, de réussir à contrôler son corps. Et d'un autre côté, on se sent très faible parce qu'on commence à être soumis à cette maladie. Il y avait ma meilleure amie avec laquelle j'ai un peu commencé ce délire-là, qui me soutenait, qui était fière de moi. On se regardait toutes les deux, on se disait « est-ce que j'ai grossi ?» Et quand on se répondait « non, t'as pas grossi, t'as maigri », on était contentes, on se soutenait un peu là-dedans, on se parlait, on se disait ce qu'on mangeait. Donc ça faisait aussi un soutien. Mais il y avait d'autres amis un peu moins proches qui s'inquiétaient et qui savaient pas quoi faire. On va dire que j'ai fait un voyage, je suis allée au Maroc, voir toute ma famille, et j'ai fait une école de surf où du coup je faisais beaucoup de sport, et là si tu manges pas, bah c'est mort. Du coup bah il y a ça qui m'a aidée, et surtout j'ai réussi à vaincre cette peur de prendre du poids. Je pense qu'on n'en sort jamais vraiment complètement. Je fais toujours très attention à ce que je mange, à mon poids, à mon image dans le miroir, mais on réussit à ne pas replonger. Ça a été mon refuge pendant un long moment, et au final, quand ça marche plus, on va dire, on est obligé de se trouver un autre refuge, et ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
Et le refuge, c'est justement le thème de la série de portraits qu'on écoute, qui ont donc été réalisés par les deuxième année d'IUT1, métier du multimédia et de l'internet. Celui-là s'appelait « Mange ta main », réalisé par Clément Réguillon et Gary Kerlioz. Un troisième qu'on avait envie de vous passer, toujours sur le thème du refuge. Cette fois, il parle du refuge l'association. Ce portrait s'intitule « La cage aux folles », réalisé par Mathis Bissonnier et Nathanaël Allard. Pardon. Nous parlons donc du refuge au sens encore un peu différent.
Tapette, pédé, tantouse, fillette, tous ces termes péjoratifs qui nous ramènent très loin en arrière et qui ne nous correspondent absolument pas. Tout dépend les villes, les quartiers. Mais oui, deux hommes qui se tiennent par la main dans la rue, c'est courant qu'on entend un « Hé, pédé, bande de tapettes !» Voilà, c'est chose courante. Je suis William Pousset, délégué départemental de l'association Le Refuge, une association nationale qui vient en aide aux jeunes entre 18 et 25 ans qui sont rejetés du noyau familial en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
L'article 1er, qui est le plus important, ouvre donc le mariage aux couples de même sexe. Il introduit un article numéro 143 dans le Code civil qui indique que le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou deux personnes de même sexe.
Homophobie, transphobie, ça c'est quand même, en 40 ans, il y a quand même eu une grande évolution de la société. Donc en 1982, il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité. Ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées et les mentalités ont commencé à changer. Elles ont changé. Malgré tout, il y a de temps en temps des petites remontées d'un certain conservatisme. En 1999, lors du débat sur le PACS,
opposants au PACS, bien décidés à se faire entendre, venus de province par quarts entiers, ils ont pris cet après-midi les rues de Paris, plus de 100 000 personnes, toutes générations confondues, pour dire leur hostilité au pacte civil de solidarité.
Il y a une espèce de levée de bouclier avec vraiment une forte homophobie qui s'est manifestée. Et en 2013, le débat sur le mariage pour tous. Entre-temps, les réseaux sociaux et l'Internet s'étaient développés. Et donc, on a vu une explosion d'homophobie et de transphobie. Cachée derrière un écran, c'est très facile. Et il y a aussi, en France, lors des attentats contre Charlie Hebdo, les Français ont découvert que, oui, en France, il existait la liberté d'expression. Parce qu'avant, on n'en parlait jamais. Et sous couvert de liberté d'expression, certaines personnes tiennent des propos racistes, antisémites, homophobes, transphobes, en disant « Ah, mais j'ai le droit de le dire, c'est ma liberté d'expression. » Et donc, du coup, certaines personnes ne font plus le distinguo entre liberté d'expression et délit. Donc on en arrive à cette violence sur les réseaux sociaux qui est assez abominable. Moi, me concernant, c'était la toute première fois de ma vie que je me sentais menacé d'être ce que je suis. C'était un moment très difficile à vivre. Et donc la loi est passée, c'est un petit peu retombé, mais malgré tout, avec la liberté de parole des réseaux sociaux, les insultes et les appels à la violence envers les LGBT n'arrêtent pas, sont constante augmentation, et on retrouve ça aussi dans les agressions homophobes qui sont en nette recrudescence.
Ce texte ne fragilise pas l'institution de la famille, au contraire, il la renforce. Il ne met pas en péril les enfants, au contraire, il les sécurise. Et il y a des dizaines de milliers, certains affirment même des centaines de milliers d'enfants qui sont concernés.
De mon côté, j'ai eu beaucoup de chance, parce que déjà, j'ai su que j'étais différent très très tôt. Quand j'ai pu mettre et su mettre un mot dessus, je me suis accepté tout de suite. Quand mes amis l'ont su, ils m'ont accepté comme j'étais. Et quand ma famille l'a su, ma famille m'a accepté aussi. De ce côté-là, je n'ai jamais eu à en souffrir. Et je n'ai jamais été, par chance, victime directement d'homophobie. Donc, mon exemple n'est pas un cas d'école, loin de là. Mais bon, ça n'empêche que je peux voir passer des choses abominables qui me blessent au plus profond de mon être. Je me sens pas différent de n'importe qui. J'ai une orientation sexuelle qui est différente, point. Ça va pas plus loin que ça. Je me suis dit, je vais aller aider ces jeunes qui n'ont pas eu ma chance. Quel refuge ? Dans notre cas, c'est le refuge dans le sens protection. Dans ce refuge, nous essayons de recréer comme un noyau familial.
Après avoir été pionnière en 1999 avec l'adoption du pacte civil de solidarité, la France a en effet un peu marqué le pas, tandis que d'autres pays européens légalisaient le mariage entre personnes de même
nous
sexe.
Nous proposons un hébergement et un accompagnement. Les deux ensemble ou séparés si le jeune n'a pas besoin de logement. L'accompagnement, les jeunes nous contactent via une ligne d'urgence nationale. Et dans ce cas-là, nous pouvons lui proposer une solution d'hébergement dans ce qu'on appelle un appartement relais. Et donc, si le jeune n'a pas besoin d'hébergement, mais seulement d'un suivi, d'un accompagnement, on lui propose un accompagnement de jour, c'est-à-dire tout ce qui est démarche auprès de la sécurité sociale, auprès de la justice si besoin, auprès de inscription en mission locale, etc. Nous leur proposons aussi une écoute, parce que les jeunes que nous accueillons sont très souvent passés par des moments extrêmement difficiles. Changement, non. Dans les mentalités, en tout cas, on ne constate pas vraiment de changement. Et je pense que l'association est encore là pour longtemps, malheureusement. Le jour où le refuge n'existera plus, c'est qu'il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Mais je crois que ce n'est pas pour demain la veille.
C'était La Cage aux Folles, un portrait de Mathis Bissonnier et Nathanaël Allard. encore des élèves de deuxième année de l'IUT Métier du Multimédia et de l'Internet, encadrés par Christiane Dampt, qui ont tous réalisé des portraits sonores sur le thème du refuge. On les remercie pour nous avoir transmis tous ces sons, même si je ne vous cache pas qu'on le diffuse un peu en avance, puisque nous venons de recevoir la deuxième partie de l'émission. On continue donc dans les créations d'étudiantes, cette fois avec les L2 Art du Spectacle. Je reçois d'ailleurs Joachim et Oran, rebonjour.
Rebonjour.
Alors, donc, vous avez réalisé une des 6 fictions, on va en écouter 5 un peu après. C'était des fictions que vous avez réalisées par groupe. Toute la promo a eu l'occasion de faire une fiction, un peu en collaboration avec la radio, on va en discuter. Donc c'est dans le cadre d'un cours encadré par Julie Valero, qui est issu. Alors on arrive un peu après la bataille, hein, parce que ça passait à l'Amphidis mercredi 3 avril dernier. Il y avait des représentations, donc on parlera du dispositif scénique qui était assez, assez malin. Mais en fait, peut-être pour reprendre par le début, donc c'est des fictions en fait, qui viennent d'un atelier d'écriture que vous avez fait au premier semestre avec Gabriel de Richoux. Racontez-moi cette étape-là.
Alors, en fait, à l'origine, c'est vrai qu'on avait écrit au premier semestre des fictions qu'on pensait mettre en radio au second semestre. Et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des pièces de théâtre trop longues par rapport à ce qu'on avait le temps de faire à la radio.
Ouais.
Donc on a réécrit des textes sur les thèmes de nos pièces.
Oui, c'est ça.
Qu'on a mis du coup
ensuite. Correspondait plus à un modèle radiophonique, je pense aussi.
Alors, vous avez choisi quel modèle radiophonique d'ailleurs?
Bon,
c'est des fictions de 2-3 minutes au final.
Ah, oui.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on a travaillé, on a écrit des textes en une semaine en pensant faire un essai, et finalement, ces essais sont devenus la représentation.
Ils ont
finale,
tous marché
en fait. Il y en a qui ont été réécrits, effectivement. Il y en a que certains groupes n'ont pas été satisfaits de leur travail, en fait, et on fait quelque chose de nouveau pour le présenter et être satisfait.
Alors, la thématique de ces pièces?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a la prostitution, il y a les catastrophes naturelles, il y a aussi le libéralisme économique. Mais ça, d'ailleurs, je crois que c'est un texte qu'on ne va pas pouvoir passer parce qu'on n'a pas les droits.
Bah, ouais.
Tant pis. Il fallait venir.
Vous
n'avez
pas fait que des textes originaux,
et oui,
du coup.
Non, du coup, on pouvait aussi s'inspirer de textes qui existent déjà, donc c'est ce qu'on a fait. J'en oublie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi?
Le jeu entre la maternité et la paternité.
Ah oui, c'est ça, les questions de genre.
En fait, c'était des thèmes qui étaient tous extraits des pièces de théâtre qu'on avait écrites au premier semestre.
Voilà, c'est ça.
C'est comme ça qu'on les a choisis.
Alors, comment vous les avez réinterprétés en fiction radio? J'imagine que vous avez commencé par l'écriture, logiquement. Comment ça se passe?
Vas-y, commence avec ton groupe.
Parce que vous êtes une promo d'une vingtaine, donc découpée en groupes de 3, 4.
Ouais, c'est ça.
C'est en fait le cours qui a une option d'une vingtaine, effectivement, par rapport à la promo. Et en fait, ce qu'on a fait, on est venu avec des textes, et c'est Radio Campus, du coup, vous qui êtes venu nous expliquer un petit peu le fonctionnement pour créer une fiction radiophonique. Donc on a repris les textes pour que ce soit exploitable, en fait. Et après, vous nous avez donné une formation sur le logiciel Reaper. Et puis, on a travaillé là-dessus en ajoutant des sons et une ambiance pour nos textes.
C'est vous qui interprétez?
Oui, c'est ça.
Parfois. Bon, ça change.
Pas tout le monde parle, je pense, mais oui, sinon c'est que de notre promo.
Ça dépend des goûts des groupes individuellement, qui voulaient parler, qui voulaient plutôt écrire, etc.
Ouais. Bah c'est vrai que, comme on va l'entendre, ils sont assez, c'est des ambiances assez différentes, même si vous avez pris des thèmes lourds.
On n'est pas très joyeux.
Dites-nous. Mais c'est. Et tous en plus. Je sais pas. Vous allez reparler après coup entre vous.
Oui, c'est ce qu'on s'en est surtout rendu compte en voyant, en passant dans le dispositif qui était du coup assez lourd à cause des thèmes, quoi, de l'ambiance. Et en fait, les thèmes de base qu'on s'était donnés par rapport aux pièces de théâtre du premier semestre ont fait qu'on a tous écrit quelque chose d'assez. D'assez lourd.
D'assez sérieux, c'est clair. On n'est pas dans la comédie française, non. Mais bon, bah non, c'est très bien aussi. C'est vrai que la mise en scène, du coup, mettait vachement bien ça en valeur. Donc, vous étiez du coup en représentation à l'Amphidis, qui est une scène assez grosse du campus. Il y a de l'espace. Racontez-nous comment vous avez choisi de le disposer, comment ça s'est fait, puisqu'il s'agit d'écouter des fictions, mais là, c'est dans un cadre un peu inhabituel.
Alors, l'enjeu, c'était de pouvoir utiliser, de pouvoir entendre chaque fiction sans qu'une fiction empiète sur une autre et que le public ne mélange pas toutes les histoires. Donc, Julie Valero nous a proposé un dispositif qui, du coup, est le dispositif final. C'est de pouvoir séparer la scène en plusieurs parties, en plusieurs chambres. Et du coup, dans chaque chambre, il y avait une histoire qui était disposée, qui était mise en scène.
Voilà. Un décor, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà, on avait exprimé la volonté de créer une ambiance pour chaque texte, pour que les gens soient plongés, en fait, dans une scénographie pour entendre les textes et rentrer dedans, en fait, ne pas rester spectateur de loin.
C'est ça, donc en fait, pour être plus terre à terre, du coup, le mode d'écoute, c'est qu'il y avait en fait 5 espaces différents qui diffusaient pendant une petite heure, je crois, les fictions en répétition. Et donc en fait, le spectateur est invité à se déplacer d'une salle à l'autre, et donc d'un décor à l'autre. À chaque fois, bon, il y avait un peu un signe pour signaler que là, la fiction allait boucler, qu'il était temps de changer de salle et donc d'ambiance. Et donc à chaque fois, des différents modes d'écoute. Vous aviez de la diffusion aux haut-parleurs habituels, du casque parfois sur le haut-parleur du téléphone pour partager un peu avec les autres. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce mode d'écoute après coup, comme je disais, là on va réécouter en mode radiophonique, mais est-ce que cette mise en scène finalement, est-ce que c'est la partie que vous avez le plus plu, est-ce que vous pensiez que ça rendait bien, je sais pas.
Moi personnellement je trouvais ça important qu'on aille sur scène pour les faire entendre, parce qu'effectivement on perd très vite la concentration en écoutant quelque chose assis simplement tout seul, je trouve, et puis... voilà, c'était un cours où, bon, le nom du cours qui n'avait pas grand chose à voir avec ce qu'on a fait, c'était qu'il y avait quand même théâtralisé dedans, donc aller sur le plateau, ça me paraissait important. Et les différents dispositifs d'écoute avaient chacun un intérêt, c'est-à-dire que, bon, sous casque, on connaît, c'est une chose, mais effectivement, tenir le téléphone et devoir partager, ça donne une concentration et une écoute qui est quand même très différente que de l'entendre de haut-parleur.
Puis je trouve que c'est aussi des dispositifs d'écoute qui appartenaient à l'univers. Par exemple, on n'a pas la même sensation quand on écoute une histoire apocalyptique avec un casque ou au téléphone ou en haut-parleur. Et du coup, on essaie vraiment de voir, bon, bah alors là, l'ambiance de l'histoire, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait mettre le spectateur dans quelle ambiance? Du coup, ouais, c'était assez important que ce soit pas la même chose pour toutes les histoires, en fait. Puis de toute façon, ça aurait été un peu difficile, je pense. Alors, il aurait fallu qu'elles soient les unes après les autres.
Vu les thématiques, ouais. Et donc, c'est vrai que du coup, une partie de la promo se retrouvait en fait à presque être les acteurs de ces décors, à rester parfois dans chaque pièce pour incarner, donner une présence silencieuse.
Toujours silencieuse, effectivement. Il y avait des espaces complètement nus d'acteurs, et puis il y en avait d'autres qui pouvaient être focalisés dessus. Je sais pas si je spoil un petit peu, mais dans une des chambres, justement, le plus important, c'était les deux acteurs, dont moi-même, couchés dans un lit, et c'était on se rendait compte que c'était l'homme qui était enceinte.
Il fallait... C'est le premier qu'on va écouter, effectivement. Voilà. Ouais. Ça donnait du coup une présence en plus du spectateur, du coup, à ceux qui étaient là. C'est vrai qu'il y avait des. Après, est-ce qu'il y avait un. Vous envisagiez ça plutôt comme des acteurs ou comme de la figuration, ce finalement.
Non, je pense que c'est plutôt du. Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
C'est un peu entre les deux.
Oui, je pense que c'est un peu entre les deux. Effectivement, aucune des personnes qui étaient là parlait, mais il faudrait quand même qu'elle soit dans l'ambiance. Par exemple, je pense à Jeanne, qui était dans l'espace de... Comment ça s'appelle ?
La brume noire.
La brume noire, voilà, merci. Désolée. Et ben, il fallait quand même qu'elle montre qu'elle était effrayée par ce qu'elle entendait, par ce qu'elle voyait à la télé. Elle ne pouvait pas juste faire de la figuration et juste être là et planter là. Ça, c'était plutôt le rôle de d'autres personnes de la classe qui était là plutôt pour guider et qui pouvait faire la figuration, si on peut appeler ça comme ça.
C'est vrai que Joachim, du coup, tu étais couché pendant toute la séance.
Voilà, et c'était pas un matelas, c'était tout à fait du bois, en fait.
Ah, ça se voyait pas.
Ce n'est pas, t'es pas du tout confortable.
Très bien. L'envers du décor.
Et ben c'est justement donc la première fiction de cette série. Je vous propose d'écouter les cinq. Je vais juste donner le titre entre chacune. Donc vous êtes toujours dans Magnétophonie. Cette semaine, on écoute les fictions réalisées par les L2Art du spectacle. Fiction qu'ils ont réalisée dans le cadre d'un atelier d'histoire à entendre, qui vous avez peut-être pu voir à l'Amphidis tout début avril. On va donc écouter 5 fictions d'affilée. On commence par La Nuit de l'Échange. Bonne écoute sur le 90.8.
Dans quelques mois, elle va donner la vie.
Épisode 1, La Nuit de l'Échange.
Enfantée de son mari, l'homme qu'elle aime le plus au monde est une immense joie pour elle. Cet enfant est la preuve de leur amour et ils l'élèveront dans leur doux cocon familial.
À ton avis, ce sera une fille ou un garçon?
Son ventre grandit de jour en jour. Un petit être se forme en elle et se prépare pour les rencontrer. Ils sont impatients de sa venue au monde. Sa grossesse est un peu difficile à vivre. Elle est souvent allongée, elle se fatigue vite. Mais elle sait que c'est pour une bonne cause.
Je supporterai tout pour mon enfant, que j'aime déjà profondément.
Un soir de pleine lune, avant qu'il se couche, son mari a une idée farfelue. Et s'il portait leur enfant à sa place, pour la soulager de ses maux, pour savoir ce que cela fait d'avoir le fruit de leur amour, pour partager ses petites douleurs de grossesse.
C'est impossible. Les hommes ne peuvent naturellement pas porter un enfant.
Leur chambre était éclairée par la lune, comme s'il faisait jour. Elle sentait une sensation étrange en elle.
Et s'il portait vraiment notre enfant?
Le lendemain matin, en se réveillant.
Mon ventre? Mon enfant? Que s'est-il passé?
Elle regarde son mari. Son ventre était énorme. Elle le touchait longuement. Elle sentait quelque chose bouger.
C'est pas vrai! Ne dis pas que... notre enfant!
C'est à peine incroyable ce qui lui est arrivé. Elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait.
Épisode 2, La Découverte.
La deuxième fiction s'appelle Le Prix des Bonnes Choses.
La plupart des mecs fréquentant les discothèques de mon patelin m'inspirent une véritable horreur. Peut-être parce que j'ai l'air un peu différente des autres. Ils sont tout le temps après moi. Ces sifflets, ces « Alors ma belle, on va faire un tour ?» me débectent encore plus que le manège des clients. Eux, au moins, même quand ils vous font signe au volant de leur voiture, vous octroient encore un sourire. Mais ces caïdes de village ne se donnent même pas cette peine. Je crois bien que la plupart des michetons se sont montrés plus gentils et même plus tendres avec moi que ces petits mecs avec leur nana. Ils veulent baiser, sans un mot ou un geste aimable, sans la moindre tendresse. Et bien entendu, il ne leur viendrait pas à l'idée de payer pour ça.
Épisode 3, la brume noire.
Depuis quelques jours, les médias nous préviennent qu'un événement météorologique unique va arriver. Chaque radio et chaque chaîne de télévision a sa propre formulation.
Un vaste brouillard.
Une météo capricieuse.
Comme de la fumée de barbecue.
Un nuage noir.
Une curiosité de mère nature.
Un mot décrivant cet événement revient néormoins.
Extraordinaire.
C'est dans ce contexte que la présidente de la République a pris la parole.
Le nuage dont nous parlons rendra toute visibilité réduite à l'espace de 2 mètres. C'est pourquoi la circulation se devra d'être intégralement coupée. Dans ces conditions, je recommande en tant que présidente de la République à l'ensemble de mes compatriotes de rester chez soi en attendant que l'épisode météorologique prenne fin.
Le réveil sonne. Je m'y reprends à 3 fois pour le trouver, puis l'éteindre. L'autre moitié du lit est vide. Normal, Victoria travaille plus tôt. Mais c'est quoi ce bruit ? On dirait que quelque chose frit dans la cuisine. Victoria ?
Tu veux un œuf ?
Qu'est-ce que tu fais encore là ?
Ouvre les volets, tu vas comprendre.
Waouh ! C'est quoi cette merde ? Une brume noire a envahi l'horizon et je ne vois même pas la rue en bas. Je commence à sentir quelque chose. Et ce ne sont pas les œufs. Oh, ça pue ! Je referme la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bah, je sais pas, moi. La présidente a dit de pas sortir, alors je sors pas.
Je suis mal à l'aise là-dedans. Il faut que j'aille voir de plus près. Les rues sont incroyablement vides et silencieuses. On dirait que la ville est désertée. Je remonte. L'odeur est trop insupportable et elle me prend à la gorge. À la télévision, ils disent que cette brume est inoffensive et qu'il n'y a aucun danger. Il ne faudrait pas avoir peur, il s'agirait d'un phénomène naturel. Pourtant, personne n'explique pourquoi et à quoi cela est dû. Ils répètent tant qu'il n'y a rien d'anormal que cela me fait douter. Il faut que j'appelle Océane. Elle travaille au centre météorologique pas loin.
Personne ne comprend ce qu'il se passe. Une des suppositions les plus plausibles était celle d'un pic de pollution. Mais on nous a interdit de diffuser cette information. Peu après, on nous a tous congédiés, soi-disant, pour ne pas être sur le lieu de travail quand le nuage arriverait.
C'est à croire que le gouvernement ne veut pas que l'on découvre la gravité de l'événement.
Ce nuage n'a rien de naturel, et encore moins d'inoffensif.
Ce sont des heures sombres, et personne ne sait réellement si elles seront temporaires.
Quatrième histoire, c'est même un cauchemar, c'est le cauchemar en jaune.
Cauchemar en jaune.
Il fut tiré du sommeil par la sonnerie du réveil, mais resta couché un bon moment après l'avoir fait taire, à repasser,
une dernière fois,
les plans qu'il avait établis pour un assassinat le soir. Il n'avait négligé aucun détail, c'était une simple récapitulation finale.
À 20h46, il serait libre, dans tous les sens du mot. Il avait fixé le moment parce que c'était son 40e anniversaire et que c'était l'heure
exacte
où il était né. Sa mère, passionnée d'astrologie, lui avait souvent rappelé la minute précise de sa naissance.
20h46.
Lui-même n'était pas superstitieux, mais cela flattait son sens de l'humour de commencer sa vie nouvelle à 40 ans, à une minute près.
Son départ,
sa destination,
sa nouvelle identité,
tout était prévu et fignolé.
Il n'avait négligé aucun détail. Il y travaillait depuis des mois. Sa décision de tuer sa femme, il l'avait prise un peu après coup.
Le mobile était simple, il la détestait.
Il avait eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant l'opportunité du cadeau d'anniversaire qu'elle lui avait fait, la veille avec 24 heures d'avance. Une belle valise neuve.
Elle l'avait aussi amené à accepter de fêter son anniversaire en allant dîner en ville, à 7 heures. Elle ne se doutait pas de ce qu'il avait préparé pour continuer la soirée de fête. Il la ramènerait à la maison
avant 20h46
et satisferait ainsi son goût pour les choses bien faites en se rendant veuf à la minute précise.
Tout était calculé. Il la laisserait morte, le cadavre ne serait pas trouvé avant 2 ou peut-être 3 jours, ce qui lui assurerait une avance bien confortable.
À son bureau, tout se passa à merveille.
Quand l'heure fut venue d'aller retrouver sa femme, tout était paré.
Mais elle traîna devant les cocktails et traîna encore au restaurant. Il en vint à se demander avec inquiétude s'il arriverait à la ramener à la maison avant 20h46.
C'était ridicule. Il le savait bien. Mais il avait fini par attacher une grande importance au fait qu'il voulait être libre à ce moment-là.
Il gardait l'œil sur sa montre, mais sur le porche, dans l'obscurité, il n'y avait aucun danger.
Il ne risquait rien.
Pas plus qu'à l'intérieur de la maison.
Il abattit la matraque
de toutes ses forces
pendant qu'elle attendait qu'il sorte la clé pour ouvrir la porte.
Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe et parvint à la maintenir debout. Tout en ouvrant la porte de l'autre main et en la refermant de l'intérieur, il posa alors le doigt sur l'interrupteur et...
Une lumière jaunâtre envahit la pièce.
Avant qu'ils aient pu voir que sa femme était morte et qu'il maintenait le cadavre d'un bras, tous les invités à la soirée d'anniversaire hurlèrent
d'une seule voix.
Cinquième histoire, l'apocalypse.
La ville est déserte. Elle arpente ses rues, solitaire, comme elle l'a toujours fait. Mais le bruit de ses talons ne l'accompagne plus. Plus jamais. Des baskets les ont remplacées. Sa mini-jupe l'a quittée aussi. Un treillis a pris sa place. Elle se retourne.
Il y a eu un bruit là. Quelqu'un? Quelque chose? Rien.
Finalement, elle poursuit sa route. Sur son épaule, une batte de baseball au lieu d'un sac à main. Des taches rougeâtres la maculent, souvenir de ses dernières rencontres. Son rouge à lèvres, à moitié effacé, s'étire en un sourire. Au loin, elle voit les filles, à l'angle de leur quartier habituel.
La rue est à nous maintenant. Et plus aucun mec ne pourra nous forcer à quoi que ce soit. Désormais, les putes font la loi.
C'était Histoire à entendre.
Alors, c'était L'Échange, une histoire de Marine Alexandre, Capucine Duporge et Julia Torres.
Ensuite, on a entendu Le Prix des Bonnes Choses de Lily Chapaz, Célia Quenet et Gabriel Legros.
Ensuite, on a entendu La Brume Noire de Joachim Laurent, ici présent, Lou Maurice Laforge, Solène Pierrot et Jeanne Veynard, Le Rouge.
Ensuite, c'était donc Le Cauchemar en Jaune avec Charlotte Fautia, Elisa Pelinck et Gaëlan Willig.
Et en dernier, L'Apocalypse avec Johan Barrière, Lila Bérard, Anna Gaillard, Manon Polizzi et Kiaomé Tang.
Et donc la sixième pièce, on va la nommer quand même, c'était Namenlos, ou son nom, c'est de l'allemand, avec Oran Barroso, Loan Gobert, Lucie Isaac et Margot Souriau.
Et c'est ainsi que se conclut Magnétophonie pour cette semaine. Je crois qu'on a écouté bien des choses. Vous avez un truc à raconter. Vous voulez refaire encore des fictions, peut-être? Ou raconter Namenlos, la dernière? La clôture?
Ah oui, qu'on n'a pas pu écouter. J'ai le droit de dire le nom de l'auteur?
Bah oui, quand même.
C'était un texte de Folk Richter que Margot Souriau, membre du groupe, a choisi parce que c'est un texte qui parle du libéralisme. Donc elle l'a choisi parce que c'était un des thèmes qu'on pouvait aborder. Et on l'a mis en scène avec tout le monde. C'était un moyen de conclure un peu le spectacle à l'Amphidis, où tout le monde se réunissait et on voulait vraiment une ambiance d'une personne face à un seul groupe. Une ambiance un peu stressante, pesante. Voilà.
Mais il fallait venir pour savoir.
Eh oui.
Eh bien, sinon, il faudra donc les réécouter. Heureusement, maintenant, ça va être à disposition. Donc, si vous avez raté le début de tout ça, vous pouvez retrouver le podcast tout bientôt sur campusgrenoble.org. Vous cherchez l'émission Magnétophonie. Si vous avez raté, donc au début, on écoutait les portraits des IUTMMI. On a écouté trois. Là, c'était les fictions des Eldorado du spectacle. Bon, vous. Oran, Joachim, merci beaucoup d'être venu en parler.
Merci à vous, Radio Campus.
J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire encore plus. En tout cas, chers auditeurs, on se retrouve pour la rediff dimanche à 11h30 ou la semaine prochaine à 12h30. Bref, même endroit, même heure, même fréquence, 90.8. Restez curieux, restez frais, restez beaux. À bientôt.